Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
La dernière heure des grandes gueules du sport, on est ensemble. Évidemment, vous pouvez écouter les deux premières heures en podcast. Merci à toi qui nous écoute en podcast d'ailleurs, peut-être, qui n'est pas en direct avec nous ce matin, avec Marc Madio, Julien Beneteau, Pascal Duprat et Christophe Cessieux. Dans un instant, les GG sur le buzzer, on va parler biathlon. Les Françaises qui explosent tout depuis dans ce début de saison à Östersund. Elles sont très nombreuses pour seulement 4 places au JO d'hiver. Est-ce que il n'y a que des avantages dans cette densité? On vous attend au 32-16. Benet, fort sur les skis, biathlon, t'as déjà testé?
Non. Enfin, j'ai jamais tiré la carabine.
C'est vrai.
Du ski de fond, mais le biathlon même non.
Pascal, j'imagine bien avoir testé Pascal, non?
Biathlon. Eh non, malheureusement. Non, non. Ouais. Séparément, oui, mais.
Ouais. Ah. Pascal, c'est un inverse. Il a déjà tiré, mais il a pas fait.
Il était meilleur en patinage artistique.
Non. Ah, mais vis-toi, ok. Hein, quand j'étais mort.
Ah, ok.
Ouais.
Ou là, tu débloquais les adversaires dans les.
Fais gaffe. Je t'ai dit.
Oh là. Ça devait être une teigne.
C'est un beau sport, le hockey aussi.
Ah, oui, oh magnifique, là. C'est vrai. Marc, dans les stages de réoxygénation, il n'y avait pas de carabine en plus, j'espère. C'était pas recommandé. Sinon, t'imagines le délire. Voilà, il y a un drame, tout simplement. En fin d'émission, participez au jeu du sport avec vos GG. Je vous rappelle que vous pouvez remporter aujourd'hui votre séjour pour deux personnes à l'hôtel Talacap de l'île de Ré. Franchement, tout est compris. Là, il y a un gros programme. Tout ce que vous imaginez, vous l'aurez à l'île de Ré. Remportez votre séjour Talacap. Appelez le 3216 touche 4 ou envoyez sport au 7-32-16. Sport au 7-32-16. Il y a un massage. Voilà, il y a des petits déjeuners, les soins Talasso. C'est un magnifique cadeau. Tout de suite, les GG, vous nous ouvrez la porte de votre vestiaire.
RMC, le vestiaire des GG.
Les GG cette semaine, ce qui a attiré notre attention, c'est l'entraîneur de l'OGC Nice, Franck Haise, qui a, après la nouvelle défaite des Aiglons en Ligue Europa, a proposé à ses dirigeants d'être le fusible ou l'électrochoc. En Angleterre, l'entraîneur de Liverpool, Arne Slot, est sur le grill alors que les Reds sont en crise de résultats. En Italie, il y a quelques semaines, Antonio Conte, le coach de Naples, a pris quelques jours pour souffler alors que son équipe était en difficulté. Carlo Ancelotti a commenté ce choix. Il a dit, il a peut-être ouvert une voie. L'entraîneur subit de grandes pressions. Notre travail est très compliqué. On ne déconnecte jamais. On entend rarement ce genre de choses. Est-ce qu'on s'intéresse finalement suffisamment à vous, les entraîneurs et les managers, et à ce que vous subissez parfois? Les GG, à travers vos expériences, je voudrais qu'on parle de ça. Le poids des responsabilités de l'entraîneur. Tiens, on parlait de foot, on va commencer par entraîneur de foot. Pascal Duprat, tiens, par exemple, quand on entend De Zerbi dire, il y a quelques jours, j'ai pas dormi pendant deux jours en voyant que j'avais un blessé. Tu l'entends, ce genre de choses?
Je trouve que De Zerbi, il a de la chance. C'est que deux jours, sans dormir. Ouais, je peux te dire, moi, ça m'arrive souvent de dormir peu, mais sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Parce que bon, encore une fois, c'est un magnifique métier et tous mes copains vont abonder dans mon sens. C'est un métier magnifique, c'est un métier riche en tout point. Tu prends des responsabilités. Pour ceux qui aiment prendre des responsabilités, eh bien, il faut que t'en prennes, et en plus t'en prends devant tout le monde, puisque les entraîneurs de sport de haut niveau, eh bien, on est jugé bien sûr par les joueurs, on est jugé par nos dirigeants, on est jugé quelquefois par nos actionnaires, si ce ne sont pas les dirigeants, parce que quand il y a des présidents délégués, c'est pas leur pognon, mais ils vous jugent quand même. Vous êtes jugé par les journalistes, et vous êtes jugé par vos collaborateurs aussi, ça arrive. Et puis, in fine, vous êtes jugé par les supporters. Donc la vox populi, elle peut tout dire de vous.
Et ça, c'est dur, ça. Il ne faut pas le sous-estimer.
Dieu sait si c'est... Oui, c'est difficile. On doit bien l'admettre. Et surtout, ce qu'on doit ne jamais faire, c'est de montrer nos faiblesses à tout ce beau monde. Il ne faut jamais montrer que tu es en difficulté, parce que tout ce qui se dit sur toi, eh bien, ça te touche malgré tout. Ça te touche et ça touche aussi ceux qui sont les membres de ta famille, et notamment tes gamins. Donc ce métier est difficile à partir du moment, comme le disent tous ces entraîneurs prestigieux que vous avez interrogés, à partir du moment où tu débutes une saison, bah, t'es dans une espèce de machine à laver infernale et tu t'en sors pas. Et bien souvent, on pense que t'es tellement costaud, bah qu'en fait, tu vas te débrouiller tout seul. Je prends l'exemple des psys. De plus en plus, des psys viennent au football pour au chevet des footballeurs qui en ont besoin. Mais jamais on vous dit, et le staff, on le ferait pas, et le coach, il verrait pas un psy aussi, si tu le fais pas de ta propre initiative, ne compte pas sur les dirigeants pour te le proposer. C'est comme ça. C'est comme ça, c'est le métier qui veut ça, c'est ingrat, le fusible. Bon, là, Francaise, il fait, à mon avis, une erreur, à moins qu'il ait envie de s'en aller. Hein. Mais à partir du moment où toi, tu proposes à tes dirigeants, tiens, vous auriez peut-être l'idée d'actionner le fusible que je représente, ça veut dire que t'es pas trop loin de la sortie, en général. Hein. Mmh. C'est-à-dire qu'ils y ont pensé avant toi. Donc, le premier fusible, et puis surtout,
ouais, mais je quand c'est terminé... Je démissionnerai pas.
Là. Non, bah oui, c'est vrai. Mais quand c'est fini pour toi, c'est-à-dire du jour au lendemain, c'est fini pour toi. Il n'y a plus personne qui te calcule, quoi, hein, en fait. Donc voilà, un peu l'ingratitude
du métier. Comment ça se fait, justement, quand tu es viré d'un club ou quand on te dit, bon, ben voilà, Pascal, c'est fini avec nous. Comment se passent les heures qui suivent? Tu vas dans ton bureau, tu fais tes petites affaires, tu t'en vas, tu fais une fête de départ, tu fais un pot. Comment ça se gère, ces moments-là?
C'est selon. Je suis parti de l'ETG, je me suis fait virer. J'ai été viré deux fois à l'ETG à Caen. Après, c'est chaque fois parce que j'avais décidé de m'arrêter. Je pourrais faire la parenthèse de Toulouse, par exemple. Mais pour ce qui est de l'ETG, j'ai été viré par mes amis. Donc ça fait mal, et surtout le club que j'avais construit avec d'autres, hein, on fait jamais rien tout seul, mais j'avais le sentiment quand même que d'une forte trahison. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Bah, pour pas me payer, et d'ailleurs ils ont réussi, puisque je disposais encore de 7 ans de contrat, hein, j'avais le privilège d'être là depuis longtemps, 3 ans entraîneur et 4 ans de directeur sportif quand j'arrêtais d'entraîner, eh bien ils m'ont mis une faute grave. Apparemment j'avais falsifié une fiche de poste. Voilà, un contrat homologué à la Ligue professionnelle de football, et Pascal Duprat, complètement débile, il va faire une fiche de poste pour je sais pas pourquoi, enfin toujours est-il qu'ils ont gagné du temps, et malheureusement le club a déposé le bilan, donc on m'aura jamais payé. Et la deuxième fois, c'est à Caen. Ben à Caen, il y a un manager qui arrive, le club est racheté et il attend 6 mois pendant six mois, me met des bâtons dans les roues, et à un moment donné, on me vire, on me paye, et après, t'entends plus jamais personne. Je n'ai même pas dit au revoir aux joueurs à Caen.
Ah ouais,
tellement j'étais désespéré.
Ouais.
À l'ETG, oui, mais à Caen, non.
C'est le vide, en fait. C'est un peu le vide.
Le vide, du jour au lendemain, le vide. Non, voilà, le téléphone qui sonne tout le temps, qui ne sonne plus jamais, par exemple.
Le poids des responsabilités de l'entraîneur, c'est le sujet du vestiaire des GG. Marc, est-ce qu'on sous-estime, que ce soit le journaliste ou même le grand public, la difficulté, on entend Pascal, hein, y a des mots forts, hein, aussi peut-être sur l'accompagnement qu'il faudrait avoir, mais est-ce qu'on sous-estime la difficulté que vous avez, vous, les managers, à encaisser les coups, notamment
le foot, c'est plus exacerbé que ça ne l'est aujourd'hui dans le cyclisme. Même si on va vers quelque chose de plus intense en ce qui concerne le vélo. Après, la pression quelque part qu'il y a sur la vie des sportifs d'une équipe, que ce soit les coureurs ou l'encadrement, on l'a choisi, on l'a voulu. Quelque part, on a besoin de cette adrénaline qui vient et qui monte avec la compétition et la course. Donc, y a avantage inconvénient dans ces situations. On vient chercher quelque part cette excitation, cette mise sous tension, sous pression. Moi, ça fait 45 ans que je vis avec le nœud à l'estomac quand j'ai mon dossard, quand j'étais coureur, ou quand je suis encore avec mon dossard derrière mon équipe. Donc, ça fait partie des choses qui nous nourrissent aussi quelque part.
C'est en toi.
Mais tu dis que t'es intouchable. Aujourd'hui, ça fait 28 ans à la tête de ton équipe. Est-ce que par moment ça a
mais
été
on
chaud
pas dans le même schéma.
Est-ce qu'on t'a mis la pression
Non, la pression, c'est est-ce qu'on est capable de trouver, de continuer à avoir les financements et la confiance des partenaires en l'équipe. C'est ça qui compte. Et la confiance des coureurs qui sont avec nous.
Mais en fait, toi, t'es vraiment dans la distinction entre, t'es dans le rôle de manager.
C'est un peu différent de l'entraîneur, c'est un peu différent.
Mais il y a des moments où ça use, Marc. Forcément,
nerveusement, ça peut user. C'est ben oui.
Tu le montres pas devant les caméras.
Quand tu rates un tour,
dans l'après 98, on a quand même connu des années. Très difficile, notamment pour le cyclisme français. On nous taxait de ne pas savoir s'entraîner. On était des branquignoles. On était les équipes de merde, français de merde.
Buvait des bières aussi.
Et donc, quand t'as ça tous les jours quelque part sous-jacent dans les médias et un peu parfois dans le public, quand tu te retrouves à 1h du départ dans ton bus ou ton camping-car pour faire un briefing que la veille, tes deux voitures de directeur sportif, la une et la deux, sont derrière le groupe Eto, et que même le groupe Eto est limite d'être hors délai. Quand tu te retrouves face à tes coureurs et ton encadrement le lendemain matin pour faire le briefing, t'as intérêt d'avoir de l'imagination. T'as intérêt d'avoir de l'imagination, t'as intérêt de garder quelque chose de positif en toi. En fait.
D'être convaincant.
D'être convaincant. Moi, mon énergie dans ces moments-là, elle était totalement consacrée à ça. Moi, j'essayais de me raccrocher à la moindre branche, à la moindre brindille d'herbe pour donner de l'envie et un peu d'espoir à mes coureurs. Et ça, c'était usant, c'était difficile. Et il fallait garder le cap. Il fallait emmener tout le monde. Le but du jeu dans tout ça, c'est de réussir à embarquer son équipe avec soi vers quelque chose qui sera sans doute difficile à atteindre. Et ça, ça consomme de l'énergie, oui.
Et je peux vous dire qu'il s'y entend, Marc, pour même quand tout va mal, que son équipe est à la rue et c'est arrivé sur plusieurs Tours de France, la FDJ organise tous les étés pendant le Tour de France un dîner en invitant les partenaires, les journalistes. Et Marc prend la parole au cours de ce dîner. Et évidemment, certains y vont quand tout va mal en disant qu'est-ce qu'il va pouvoir nous dire cette fois-ci ? Comment, sur quelle corde il va pouvoir jouer ? Et je peux vous dire qu'à chaque fois, il arrive à prendre son public parce que tu as un don d'orateur et quand tu t'adresses aux gens on arrive à te suivre alors que franchement
Marc dans son activité il l'a dit, il doit convaincre les partenaires de suivre poursuivre l'aventure et convaincre aussi des coureurs de venir dans son équipe. Tu as son rôle aussi de recruteur donc de vendre son équipe. Pourquoi si tu viens chez moi, comment...
le coureur ne, enfin moi je de ce que j'ai vécu jusqu'à maintenant, souvent l'argent est une chose. Là, aujourd'hui, l'argent prend beaucoup plus de place que par le passé.
Bien sûr.
Mais par le passé, il y a 10 ans ou 15 ans,
t'avais
ou 20 ans,
embarqué
t'étais davantage dans l'humain et t'étais davantage dans
l'histoire.
On y va ensemble.
Ouais.
Moi, j'ai en exemple, j'ai des tas de coureurs qui ont fait toute leur carrière avec moi et d'autres. Je me souviens, t'as connu McGee chez nous. McGee, moi, j'avais été le chercher à l'aéroport. J'avais une belle et longue histoire avec lui. Et à un moment, on était en difficulté. On savait pas si la Française des Jeux allait continuer. Et on était début septembre et le nouveau président de la Française des Jeux hésitait à renouveler le contrat. Et puis, un matin, le président m'appelle et me dit, Marc, je vous fais confiance, on repart pour un an et on verra. Donc j'avais libéré quelque part tous mes coureurs à ce moment et j'ai pris mon téléphone et j'ai rappelé Brad McGee. Il était déjà quasi embarqué chez Rabobank. Il avait fait son chemin et il cherchait du boulot, il avait quasiment trouvé son chemin. Et McGee m'a dit, Marc, je peux pas te faire ça, je reste. On est reparti pour un an d'avant. Voilà, c'était ça à l'époque. Le but du jeu, même quand c'est difficile, il faut garder la foi et dans ce qu'on te donne et dans ce qu'on propose aux coureurs.
C'est la condition première à ta crédibilité, le fait que tu gardes la foi, tu sois positif.
Des erreurs, on en fait tous. Des lacunes, on en a tous. Mais il y a un moment, il faut qu'on mette les tripes sur la table. Il faut qu'on mette le cœur à l'ouvrage. Voilà, moi quand je pars en course sur certaines courses avec mes gars, quand il y a le championnat de France... Moi, je fais le briefing. Avant de rentrer dans le briefing, je sais jamais ce que je vais leur dire. Jamais. Mais quand je les prends les yeux dans les yeux, je me transforme. Et j'arrive à les transformer. Et je sais qu'on peut faire des grandes courses au championnat. Parce qu'on va chercher, au fond de nous, au dernier bout des tripes qu'on a, on va chercher le truc qui va nous réunir sur le maillot, qui va nous permettre d'aller chercher un maillot de champion de France. C'est très symbolique, le maillot de champion de France. Mais pour moi, le championnat de France, c'est l'endroit où on véhicule ce qu'on est, ce qui est l'âme de l'équipe. Et si on arrive à transmettre ça, ah putain, on peut renverser des montagnes.
Les gars, je crois qu'on va être champion de France. Ça, je suis sûr.
Ouais, c'est ça.
Non, mais ça, c'est hyper intéressant. On est dans le poids des responsabilités de l'entraîneur. Et quand on parle de ça, Marc, immédiatement, en fait, tu te réactives tout seul. Tu te réactives. Ça montre à quel point c'est important.
Tu te mets en situation, Marc.
Non, mais ça montre aussi à quel point vous êtes dépassionnés. Et justement, ce que ça implique comme implication émotionnelle pour vous tous quand on rentre là-dedans. Julien Beneteau, tu as été capitaine de l'équipe de France Fed Cup. donc t'as été joueur avant, ensuite tu te retrouves à devoir prendre des responsabilités. C'est dur parfois de, ben justement après coup parfois les choses qui n'ont pas marché.
Après coup, oui, bien sûr, y a, on refait toujours l'histoire quand ça marche pas. C'est dur. C'est le job. C'est Marc l'a dit, Pascal l'a dit. On aime ça. On va se nourrir de ça, de cette pression, de cette excitation, de cette adrénaline, d'essayer de transmettre quelque chose, d'essayer d'embarquer, d'essayer de convaincre. Et
des fois ça marche pas.
Et des fois ça marche
pas.
Et parce qu'on a le droit de faire des erreurs, parce que on prend des décisions à un instant où on a des données entre guillemets, des ressentis qui font qu'on va prendre cette décision et que quand ça marche pas, après coup, on se refait le film. Pourquoi j'ai fait ci? Pourquoi j'ai fait ça?
Tu te refais encore
mais tu
le film,
le fais dans ton fin antérieur, pas devant d'autres personnes.
Non.
Pas devant les médias, pas devant des partenaires. Voilà, c'est quand tu rentres dans ta chambre d'hôtel.
Pas devant les médias.
Tu fais le constat.
Ouais, ou même deux semaines, trois semaines. Ouais, même moi, aujourd'hui. Moi,
c'est important, ça, pour la construction du manager, de faire un feedback et de reconnaître, d'avoir l'honnêteté. Mais ça, c'est on se parle à soi. D'avoir l'honnêteté de chercher les erreurs que j'ai commises ou que j'aurais pu commettre pour
comment dire. Pourquoi on a pris cette décision?
Moi, si je prends l'exemple de Saint-Etienne, j'ai repris après Claude Puel à Saint-Etienne, il avait marqué 12 points en 18 matchs. Tout le monde, y compris mon agent, me disait, va pas, c'est une pétaudière, va pas là, Pascal. Mais je suis un passionné de foot, entraîner Saint-Etienne pour moi, le petit entraîneur, incroyable, si vous voulez. Je marque 20 points en 20 matchs. J'arrive, enfin, ce sont les joueurs qui parviennent, je fais la rectification, ce sont toujours les joueurs qui accomplissent les performances. Ouais, ce ne sont pas les coachs. Donc, les joueurs parviennent à aller jusqu'au barrage. Et vous savez, j'ai fait une dépression nerveuse pendant un an. Ça s'est pas su pendant un an. J'étais mal parce que j'ai échoué. J'ai échoué. Je considère que je prends ma part de responsabilité. J'ai cherché pourquoi. Au fond de moi, je sais pourquoi nous n'avons pas réussi à battre Auxerre en barrage. C'était au pénalty. Hein. Mmh. On termine 5-4. Hein. Je ne mets pas le public parce que les supporters stéphanois, ils sont géniaux. Mais moi, en 10 matchs à domicile, 6 ou 7 fois, les tribunes, elles étaient soit clairsemées ou soit complètement vides parce qu'ils étaient suspendus. Donc, ils avaient aussi leur part de responsabilité. Barrage retour à Auxerre, on tire les pénalties, il n'y a personne derrière. Hein, parce que la tribune est suspendue.
Non, mais c'est intéressant, ça, sur ce que ça
a. Mais il n'y a personne qui l'a dit, ça.
Non.
Par contre, Pascal Duprat a la responsabilité. Personne n'a dit. Mais attention, j'adore Claude Puel. Il est bien meilleur entraîneur que moi.
Mais ce qui est intéressant aussi, dans les mots que tu utilises, Pascal, c'est que quand ça gagne, tu dis c'est grâce aux joueurs, tu ne veux surtout pas te mettre en avant.
Toujours.
Quand ça perd, c'est la faute de l'entraîneur.
Toujours. Oh, moi, je suis parti de Saint-Etienne où les gens commençaient à m'apprécier beaucoup. Ils pensaient tous que que les joueurs allaient se maintenir. Je suis parti de Saint-Etienne comme un voleur, à aller louer une voiture utilitaire pour vider mes meubles, ok. Mais d'y aller comme un voleur, vous m'entendez?
Non, mais ça laisse des traces, en fait. C'est ça, c'est pas neutre. Non, mais c'est pas neutre, ça laisse des traces. C'est vrai que c'est presque un peu dommage qu'on ne le sache pas, ça, souvent, sur le moment. Ça permettrait de dimensionner l'importance, en fait, de ce que vous subissez.
Parce qu'on ne va pas chercher les entraîneurs qui viennent d'être virés. D'abord, parce qu'ils veulent pas parler, souvent.
Et qu'ils peuvent pas.
Et qu'ils peuvent pas.
Parce que.
Non, mais une solitude, il y a, oui, on essaye de réfléchir pourquoi, comment, etc. Et c'est là où le rôle de l'entourage est hyper important. D'assumer, moi, ce que je disais, par rapport à mes joueuses et par rapport à la presse ou par rapport aux dirigeants de la fédération, moi, pour moi, j'estimais que je devais être le tampon, entre guillemets, et protéger les joueuses.
Voilà.
Et protéger les joueuses. Voilà. Donc, c'était très clair. J'étais très honnête là-dessus. Je leur annonçais. Et donc, exactement, je pouvais vraiment les protéger. Après, en interne, on se disait les choses. Et ensuite, moi, je considérais que c'était mon rôle, que c'était comme ça. Peut-être qu'un autre capitaine a pu faire différemment ou fera différemment. Voilà. Mais oui, on est pris. moi aujourd'hui encore, de temps en temps, je me refais quelques rencontres, les dernières ou celles de l'année d'avant, quand on perd contre la Grande-Bretagne, et pourquoi à tel moment on n'a pas réussi, pourquoi elle n'a pas fait tel point, et comment ça se fait que Raducanu allait jouer comme ça ce week-end, et si j'avais gardé telle composition d'équipe, est-ce que ça, il y aurait eu un résultat différent.
Ça te hante quand même encore. Il y a des trucs qui te hantent.
Bien sûr, on a envie.
Alors ça veut pourquoi dire ça que dans, en toi, Julien, t'es un vrai manager. Ça veut dire que t'es prêt à replonger.
Mais moi, j'ai envie de replonger dans n'importe quel sport.
Bah là, tu me quand parles comme un vrai manager.
Quand j'écoute Marc, quand j'écoute le fameux discours de Pascal pour le maintien, enfin, je veux dire, Marc, là, je suis dans le camion en face de lui. Il m'entraîne parce que je suis capable de monter sur un vélo et d'aller faire un col parce que la passion, le côté vrai. Moi, j'ai essayé d'être comme ça. Et à un moment donné, je pense que j'ai été impactant. Et à un moment donné, je n'ai plus été impactant. Et
c'est dur à l'accepter, ça aussi.
Et pourquoi je ne l'ai plus été? Est-ce que c'est de ma faute? Est-ce que mes discours n'étaient pas bons? Est-ce que je me trompais de cible? C'est-à-dire qu'une génération de joueuses, ça parle peut-être un peu moins que moi, ce que j'ai pu recevoir.
C'est terrible, parce qu'en fait, tu te dis presque, c'est quoi, je suis périmé aujourd'hui?
Non, pas périmé.
Non, mais dans mon discours ne passe plus avec une certaine génération.
Ou avec certaines joueuses, ou certains joueurs à un moment, à un instant T. Mais peut-être qu'avec d'autres joueurs de la même génération, ça passerait totalement. Et je serais capable de les embarquer. Ou dans un autre sport. Ou parce que il y a des moments, il y a des sensibilités. Où c'est naturellement on est plus impactant. Et c'est une remise en question aussi permanente. Mais j'ai fait un exercice, mais dans une formation, j'ai fait un exercice d'un atelier. J'étais le coach d'une équipe de foot. Il y avait 1-0 à la mi-temps pour nous. J'étais content de la production, mais j'étais pas content de l'engagement de mes joueurs. Et donc j'avais 10 personnes devant moi, j'avais 5 minutes pour préparer mon discours et je devais les embarquer comme si c'était mes joueurs. C'était ça mon atelier. J'étais content parce qu'à la fin, celui qui dirige l'atelier m'a dit « Franchement,
pas mal.
Tu pourrais être coach de foot. » Entre guillemets, j'y connais rien au 4-2-3-1, mais de la manière. Parce que j'ai parlé avec mes tripes, j'ai parlé avec ce que moi j'aurais aimé entendre.
Ce que disait Marc tout à l'heure,
c'est exactement, c'est vrai. Et je ne savais pas ce que j'allais dire parce que je n'avais pas le truc. Mais parce que je pense qu'on a une passion qu'on sait au fond de nous, et c'est pour ça aussi qu'on se refait les films quand ça marche pas ou quand ça marche, et c'est là où le rôle de l'entraîneur aussi est hyper important.
Le fait d'avoir été compétiteur avant de devenir coach, je pense, c'est capital.
Complètement.
Parce que tu ressens les choses.
Exactement. Est-ce que tu as vécu? Est-ce que tu as vécu?
Et je voudrais qu'on termine là-dessus. On est dans le vestiaire sur le poids des responsabilités de l'entraîneur. Pascal a déjà un peu effleuré le sujet, mais là finalement on parle de choses qui sont beaucoup dans l'intime quand même. Souvent que vous ne dites pas aux caméras sur ce qui se passe dans votre tête quand c'est difficile. En fait, le plus dur c'est pour vos proches, vos compagnes, notamment qui vous voient de manière brute dans ces moments-là de remise en cause ou d'insomnie parfois.
C'est elle qui morfle en premier, non?
Vous n'êtes pas tout seul.
Vous êtes,
en fait, votre soutien,
enfants,
votre vrai soutien, votre vrai alors, soutien de confiance sont vos proches.
Moi, enfin, je ne sais pas si Marc et Jules, vous ne vous faites pas beaucoup critiquer, vous. Tandis que moi, je m'en suis plus plein la gueule.
Oui, puis moi, c'est différent à s'exposer que toi au foot.
Non, ouais, on sur RMC, on n'aura de personne.
Non, c'est différent.
Julien a subi des critiques, oui. Marc a subi des critiques.
Non, mais ça fait partie du job. Sauf que moi, la récurrence, elle est différente par rapport même à Marc. Pas les critiques, mais.
Pas autant de matchs.
J'ai pas autant de matchs. Moi, c'était 3 ou 4 fois dans l'année où c'était très. Donc, par rapport à Marc et Pascal, le rôle de mon entourage est différent. Moi, ce qui était très important, quand je doutais ou quand je repense des choses comme ça, c'est mon staff. Plus que mon entourage familial, on va dire. Parce que le staff vit les mêmes choses que moi, au même moment. Et donc, quand après coup, j'en reparle ou je réanalyse.
Mais en revanche, une fois que tu franchis la porte de la maison, tu ne parles plus de tout ça, tu essayes d'évacuer.
Ouais.
Ou alors, ta famille sert de tampon en quelque
sorte. Non, c'est moins parce que c'est moins dans mon quotidien.
Ouais.
Que pour Marc, ou pour Pascal.
Marc et Pascal.
Quand tu rentres chez toi, il y a plus de problème FDJ.
Si, il y a des problèmes FDJ à l'entrée, au plat principal et au dessert. Oui, forcément.
Elle est contente, Jennifer.
Non, mais ça fait pas. Enfin, ça fait partie de notre vie. Oui, oui. faut on avoir les bonnes personnes avec la famille, mais aussi avec l'encadrement. C'est toujours une aventure collective. Et je pense qu'on travaille mieux quand on est avec des gens qu'on connaît et qu'on aime. Voilà. Et il faut qu'on ait.
Mais ça, c'est un de vos privilèges.
Une cohésion et une solidarité sans faille entre nous. Quand on rencontre des moments difficiles.
Incroyable. Mais c'est vrai que ton équipe, c'était une équipe familiale. Tu bossais avec ton frère, bossais avec Martial.
Avec
ta nièce.
J'ai été coureur avec eux. Bah oui. On a été coureurs ensemble dans la même équipe ou dans les mêmes équipes. Donc. Il y avait des moments où on n'avait même pas besoin de se parler pour savoir ce que l'autre allait dire.
Ouais, c'est un bonheur, c'est un vrai plus.
Je pense
que
Pascal,
il n'a pas connu ça.
Ouais, Pascal,
peut-être,
mais ce que dit Marc,
moi,
je l'ai vécu.
Si, moi, à l'OTG, quand j'étais en place, donc j'ai pris mes collaborateurs, c'était les miens.
Sur la première rencontre, je refais jouer Caroline Garcia et Christian Mladenovic ensemble. Enfin, je les prépare pour qu'elles jouent ensemble. On n'a pas eu besoin du double décisif cette première rencontre. Mais je me souviendrai tout le temps du premier entraînement de double où elles sont sur le terrain ensemble. Et là, moi, je prends du recul et je regarde le visage de mon staff qui, eux, avaient vécu les autres années et le clash, etc. Et là, quand au bout de 5 minutes, on a vu que tout de suite, ça cliquait sur le terrain et qu'elles étaient très fortes à l'entraînement et que ça reprenait, le visage du staff a complètement changé. Ils sont venus me voir en me disant... Ça fait 4-5 ans qu'on attend ça. C'est incroyable. Et donc, quand en un coup d'œil, tu es capable de voir une réaction positive, c'est des moments qui n'ont pas de prix là. Là-dessus.
On referme la porte de votre vestiaire. Le poids des responsabilités de l'entraîneur. C'est bien qu'on puisse en parler parce qu'on n'en parle vraiment pas suffisamment de ce genre de choses. Tiens, j'ai Martial sur le WhatsApp 06 12 84 84 qui me dit c'est vrai tout ce que vous dites dans le vestiaire et dans le monde amateur également, même si les conséquences sont différentes. Mais oui, c'est pour ça aussi qu'on fait le vestiaire, hein, parce que ça résonne aussi chez vous. Et Jer qui me dit je n'ai jamais fait de vélo, mais entraîné par Marc Madiot. Ça doit être génial. Allez, on revient dans un instant pour aller juger sur le buzzer à part les biathlons. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Les grandes gueules du sport avec Marc Maggio, Pascal Duprat, Julien Veneto et Christophe Cessieux. Avec Christophe, du coup, on est métamorphosé là. On a entendu les e-sports des entraîneurs.
Voilà, je vais gagner le tour. Champion du monde de kitesurf.
Ça. Et puis maintenant, on va être sympa avec vous parce qu'on vient de comprendre vraiment ce que c'était. Donc, on va plus jamais critiquer l'entraîneur.
Jusqu'à midi. On va se gêner.
Dans un instant, les jeux du sport. Quel GG connaît le mieux le sport? Mais d'abord, reprise de la saison de biathlon hier à Östersund en Suède. Si on est trop à être très fort, c'est bien ou c'est pas bien finalement?
Lou Jean Monod, voilà, qui se retourne, qui arrive sur le plat devant la grande tribune qui est remplie ici à Östersund, des drapeaux français dans les tribunes, les supporters tricolores qui ont fait le déplacement, les bras levés et le pied qui franchit la ligne d'arrivée. Victoire de l'équipe de France de biathlon. Le relais féminin continue ses bonnes habitudes avec une première course cette saison et une première victoire pour les Bleus.
RMC, les GG sur le buzzer.
Et oui, première course et première victoire. Les Françaises étaient favorites du relais d'ouverture de la Coupe du Monde de biathlon à Östersund en Suède. Elles l'ont dominé de la tête et des épaules. Succès devant l'Italie et la Tchéquie pour nos Bleus. Impérial sur l'exercice depuis 2 saisons. Les Françaises ont envoyé un grand signal à 68 jours des Jeux de Milan. Cortina dans RMC, la radio officielle. Tout ça sans Julia Simon en plus. Hein. Mais en fait, il y a un casse-tête. C'est que seules 4 filles pourront aller aux Jeux, sauf qu'elles sont très nombreuses à être performantes. Les GG, je vous pose la question. Grosse densité dans le biathlon féminin français. Est-ce qu'il n'y a que des avantages? Christophe Cessieux.
Non, il n'y a pas que des avantages.
Ah, Julien Beneteau.
Pour moi, oui.
Pascal Duprat.
Que des avantages.
Marc Madiot.
Oui.
On vous attend au 32-16 pour réagir sur WhatsApp 06 12 424 424. Vous l'avez écouté il y a quelques instants, il était au commentaire hier. Julien Richard est avec nous, salut Julien.
Salut tout le monde.
Salut Julien. Pour nos Bleus, Julien, ça va être une bataille terrible jusqu'à Milan Cortina.
Elles étaient 5 Françaises dans le top 10 mondial la saison dernière. 7 filles différentes sont également montées sur un podium en Coupe du Monde, donc potentiellement capables de monter sur un podium olympique. Mais effectivement, au départ des courses individuelles aux Jeux cet hiver, il n'y aura que 4 dossards. Alors on peut se dire qu'il y a des athlètes expérimentés qui ont leur place plus ou moins assurée pour les JO. On pense à Julia Simon, 10 fois championne du monde, la championne olympique Justine Brezaz-Boucher, ou encore Lou Jean Monod qui est leader actuellement des Bleus. Mais même la deuxième du général l'an dernier a dû travailler un peu sur cette angoisse du cut des sélections.
J'essaie au maximum de penser au fait que si je ne fais pas partie des 4 Françaises sélectionnées au jeu, c'est que je ne suis pas assez forte et Puis à partir de là, entre guillemets, je ne mérite pas d'aller au jeu. Quoi. Si je suis partie de la sélection, c'est que je peux bien performer au jeu. Si je n'en fais pas partie, eh ben, c'est qu'il y a mieux que moi pour représenter la France. Et donc, ouais, j'ai dû apprendre à être OK avec ça. Mais maintenant, je comprends que c'est une bonne chose parce que ça booste, ça donne envie d'être meilleure.
Et toutes les filles se retrouvent sur un point, une telle densité au quotidien. Là, je parle pas juste de la compétition, mais surtout peut-être au niveau de l'entraînement. Eh bien, c'est une force, que ce soit pour les anciennes, donc comme Lou, Jean Monod, ou pour les plus jeunes, comme Jeanne Richard.
On a la chance, justement, d'être de la meilleure équipe du monde. Donc, en fait, la meilleure dans un domaine, elle a une grande chance d'être la meilleure mondiale à ce jeu-là. Ça veut dire qu'on s'entraîne tous les jours avec la référence mondiale. C'est une bonne opportunité de progresser.
Pour moi, c'est simple, c'est un atout. C'est un atout parce qu'on a des refs. On a des refs au niveau du ski. On a des refs au niveau du tir. On a des refs sur les deux. On a des refs en termes de mentalité. On a des refs partout. Et c'est une réelle chance qu'on a.
Alors, une chance, une force, mais c'est aussi un travail d'équilibriste pour le staff de l'équipe de France quand on connaît en plus le contexte de cette équipe. On en a beaucoup parlé. Écoutez, Cyril Burdet, l'entraîneur du groupe féminin.
Ça, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. On a une vraie stratégie collective dans la préparation et dans l'approche. Et en même temps, on a aussi beaucoup de souplesse pour pouvoir s'adapter au niveau d'expérience et au vécu et au positionnement des unes et des autres. Sachant que le but du jeu, c'est aussi de tirer le meilleur de chacune. Et après, c'est aussi faire prendre conscience à tout le monde que cette densité, c'est aussi un atout pour tout le monde parce que la pression n'est pas uniquement sur une athlète, elle est sur toute l'équipe.
Et il y a 6 étapes de Coupe du Monde avant les Jeux pour constituer donc cette Dream Team du biathlon féminin français.
Et la sélection, elle sera donnée quand ?
Elle sera donnée avant les
juste avant les Jeux.
Dans 6 étapes. Il y a
ce sera,
dernière novembre mesto.
Ce sera juste, alors, juste avant les Jeux. Il n'y aura pas de...
Les filles connaissent la règle du jeu. Le staff leur a expliqué.
C'est quoi cette
ça, c'est une excellente question. Je suis là incapable de te la dire. Si ce n'est de constituer la meilleure équipe série, on prend
donc
en compte le classement mondial.
Elle est en off ou elle sera publique?
Elle est,
des coups de bâton pour rien.
Non, mais en tout cas, tout le monde connaît la règle du jeu. Il faut être, en gros, les meilleurs. Donc, que ce soit, le classement général à la Coupe du Monde, mais, en fait, ils vont prendre le classement général. Ils vont prendre le classement général de la Coupe du Monde, mais aussi la capacité de gagner. Donc, je pense que la victoire aura une. Pour l'instant, nous, on le sait pas.
Est-ce que
précisément,
c'est la forme au moment
je peux
des
pas
JO ou est-ce que c'est la forme sur une longue période?
Non, mais ça veut dire c'est le nombre de points accumulés ou au moment où tu as pris.
Ça
fera
partie
points
des critères. C'est-à-dire le classement général, mais aussi la capacité de gagner. Donc, si en début de saison, on gagne une
oui,
course.
Oui, mais par exemple, si tu gagnes les premières
épreuves. C'est pas
parce qu'il sait tout. Mais si tu gagnes les premières épreuves, par exemple, si tu démarres la saison.
Tu marques des points.
Mais que les deux étapes et que t'es largement en tête au classement général, mais que les deux dernières étapes avant les Jeux, t'es à la rue. Est-ce qu'on comptera tes points ou on comptera ta forme du moment?
Non, mais c'est
là où il y aura le travail des sélectionneurs.
Non, mais attends, Marc, Manu, je te vois, t'as été très attentif là-dessus parce que tu penses comme manager là. C'est très important que ce soit clair sur les façons de se qualifier.
Ah oui, bien sûr. Oui, non, enfin, je suis pas sélectionneur, je suis pas. Dirigeant du biathlon.
Tu fais deux, trois trucs quand même qui te parlent.
Mais.
Tu sélectionnes pour le Tour de France quand même.
Je sélectionne pour le Tour de France, mais c'est quand même plus simple que la situation présente. Parce que là, il y a des règles à défier. Moi, je serais à la place du ou des sélectionneurs. J'essaierais de mettre tous les athlètes dans une situation de préparation égale. C'est-à-dire que donner les mêmes moyens à tout le monde pour aborder le moment du choix décisif.
C'est ce qu'ils font.
Je pense que c'est ce qu'ils font. Donc le but du jeu, pour moi, ce serait de mettre tout le monde sur un même plan en termes de préparation et d'approche de la compétition. Et après, le destin fera le reste. Mais le plus important, je pense que c'est ça.
Moi, Christophe,
j'ai eu affaire un peu à ce type de situation avec Boigny et Desmar.
Qui étaient deux sprinteurs.
Qui étaient deux sprinteurs, même génération, capables les deux de gagner. Et... au sein de l'équipe, on a toujours essayé de les mettre dans les mêmes conditions pour travailler. C'est-à-dire d'avoir la même équipe autour d'eux, le même niveau d'accompagnement au quotidien et sur toutes les compétitions. Et après, in fine, le verdict tombait.
Ils ne couraient pas en même temps. Là, ils vont en plus toutes courir en même temps. Elles sont plus ou moins des mêmes courses.
Ouais. Cette densité, elle n'a pas que des avantages, toi, tu dis, Christophe.
Non, elle n'a pas que des avantages parce qu'il y a cette sélection au bout. Il y a cette sélection au bout qui fait qu'il y en a une qui va pas participer au jeu. Quand tu regardes leur classement à l'issue de la dernière Coupe du Monde, les 5 Françaises sont 2e, 3e, 5e, 5e, 6e et 8e de la Coupe du Monde. Donc il y en a une des 5 qui va avoir le cut.
Ça peut créer des tensions.
Ça peut surtout, enfin,
on a vu hier
qu'elles étaient déjà au taquet, Julia. Elles ont gagné le relais féminin. L'année dernière, il n'y avait pas de sélection à faire pour les championnats du monde parce que tout le monde y participait. Leur premier relais, elles l'avaient gagné au championnat du monde, justement. Donc, elles avaient débuté la saison un peu tranquillou. Là, elles sont déjà au taquet parce qu'elles savent qu'il faut marquer des points, qu'il faut marquer les esprits avant d'y arriver. Mais le problème, c'est que c'est une saison de biathlon. C'est très long, c'est très sollicitant. Et j'ai peur que si tu donnes tout maintenant, que tu as déjà ton pic de forme en tout début de saison, tu risques de le payer au moment le plus important, c'est-à-dire au moment des Jeux Olympiques. C'est évidemment que c'est un problème de riche, hein, quand tu as autant de grandes championnes, tu sais que tu vas cartonner aux Jeux Olympiques. Mais je sais pas si ça pourrait pas poser des problèmes, justement, vu en plus les relations qu'on
partage. Sauf catastrophe, il doit y avoir des compétitrices qui sont, on va dire, privilégiées.
Protégé, sauf Jean Monod, oui, Justine Brezaz, donc il voilà. en reste une. Donc bah il y a oui, des deux,
c'est. Bah ouais, si si les choses se passent Richard, comme les ouais. dernières saisons, à savoir qu'elles affirment leur leadership et qu'elles elles sont performantes, il y aura un choix à faire si c'est quatre pour les Jeux Olympiques.
Si Richard et Michelon cartonnent, si elles sont en tête,
c'est là que le manager va prendre ses responsabilités. Ouais, mais bon, en fonction des critères qui lui sont propres et qui sont définis au préalable. Voilà. Et puis il aura la satisfaction parce que in fine, bah oui, il fera des frustrés, mais in fine, il aura été juste dans sa sélection parce qu'il s'appuiera sur des critères qu'il avait avancés au départ.
Bennett, le mot de la fin, ouais. Tu penses que c'est un problème de riche, en fait?
Oui, elles le disent dans les interviews. Elles se tirent vers le haut, là. Elles sont dans une équipe très très forte, donc un niveau d'exigence super élevé et un objectif super élevé avec les Jeux Olympiques. Donc obligatoirement, ça va amener une énorme performance.
T'aurais bien aimé avoir les 5 meilleurs mondiaux.
Je préfère avoir ça, être à la tête de l'équipe de France de biathlon qu'à la tête de l'équipe du Portugal de biathlon. Enfin, forcément, là, oui, je vous le dis.
Est-ce qu'il y en a une équipe de Portugal de biathlon?
Aux Jeux Olympiques, peut-être? Non,
pas encore. Allez, le biathlon, évidemment, on le suit aujourd'hui. Le programme Julien. Avec
14h. Ouais. Le relais mixte simple.
Et ensuite le relais mixte à 16h40.
Le relais mixte compliqué. Il y a le simple et le compliqué.
En fait, les garçons ont terminé deuxième hier. C'est vrai que c'est pas tout à fait clair, hein, tous ces relais-là. À tout à l'heure, Julien. Merci d'avoir été avec nous. Évidemment, on a 68 jours des Jeux Olympiques d'hiver. Il y aura la page blanche tout
là,
à l'heure en piste.
Là, pour le
vers Milan Cortina à 15h. Les Jojo arrivent. Ouais, Julien Beneteau est prêt. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules du sport.
Georges Quirineau.
Les grandes gueules du sport avec Marc Madio, Julien Beneteau, Pascal Duprat, Christophe Cessieux, tout de suite on joue.
RMC, les jeux du sport.
Je vous rappelle le principe 2 contre 2, vous allez défendre un auditeur. Les équipes, Christophe Cessieux et Marc Madio, Pascal Duprat et Julien Beneteau ensemble. Je vous rappelle que vous pouvez à tout moment activer la question impossible. Seul un joueur pour l'activer par émission et il est le seul à jouer. Une bonne réponse, c'est 2 points. Une mauvaise, c'est 1 point en moins. On accueille les auditeurs Gilles et Mélanie. Bonjour Gilles et Mélanie.
Bonjour.
Alors Gilles, c'est toi qui as appelé en premier. Je te laisse choisir ton équipe avec Cessieux Madio ou Duprat Beneteau.
Duprat Beneteau
pour Gilles. Mélanie donc avec l'équipe Cessieux Madio. Je vous rappelle ce que vous pouvez remporter aujourd'hui, un séjour pour 2 personnes à l'hôtel Talacap de l'île de Ré, tout est compris. Franchement, c'est un magnifique cadeau. Allez les GG, c'est parti. Question à une seule réponse. L'Afrique du Sud, les box, a battu le pays
73-0.
Eh ben voilà, c'est une seule réponse, c'est pas ça la question. Donc t'es éliminé.
Ah ben t'as pas dit que c'était une seule réponse.
Bah si, je l'ai dit.
Ah bon.
L'Afrique du Sud a battu. Éliminé, Christophe, tu peux plus parler. Hein. L'Afrique du Sud a battu le pays de Galles 73-0 hier à Cardiff. Combien d'essais inscrits? Combien d'essais ont été inscrits par les box?
10. C'est au plus près?
10, dit. Allez, le plus proche. Le plus proche.
11.
11, bonne réponse de Pascal Duprat. Mais Christophe,
non, mais je joue plus.
Mais tu peux t'en vouloir qu'à toi-même. Tu t'écoutes pas les dénoncer. Tu devais être insupportable à l'école.
Mais normalement, il devrait avoir moins un. Il devrait avoir moins un parce qu'il répond avant la fin de l'énoncé de la question.
T'as jamais regardé le Burger Quiz? Il faut attendre la fin. Question à une seule réponse, Christophe. Question à une seule réponse. Qui est le meilleur buteur de Ligue 1 actuellement?
De Ligue 1?
De Ligue 1.
Ah, Greenwood.
Mason Greenwood. 2-0.
Non, un partout.
Non, Pascal, avec toi.
Non, t'es avec moi. T'es avec moi.
Merde, pardon, Pascal.
Non, bah, ça aussi, on
se bat. Allez, les gars, on se remet dedans, hein, Christophe.
Non, je...
Mélanie, qui s'élancera en pôle du Grand Prix de Formule 1 au Qatar?
Norris.
Auditeur.
Oh. Norris.
Gilles, c'est pas bon. Trop tard, 0 points. Ah, c'était Piastri.
Oh, Gilles. Toujours 2-0. Gilles, enfin.
C'est Piastri.
Oh, Gilles, enfin, Piastri.
On reste à 2-0. Oui. Attendez.
Limite, Marc, il pouvait nous donner le point. Hein.
Ouais. On reste à 2-0, attention. Question pour vous, les GG. Question à une seule réponse. Dans quel sport pourrait se lancer Andrés Iniesta?
Le vélo.
Oui, Marc.
Moi, oh, là, elle m'a tué, là.
Et oui, le vélo, avec son agence NSN, qui se lancerait comme sponsor d'une équipe.
Exactement.
Il remplace l'équipe Israël, en fait.
2-1.
Question à une seule réponse. Quelle équipe du top 14 a remporté hier son 20e succès consécutif à domicile?
Bayonne. Toulouse.
Voilà, Bayonne. Christophe, tu vois, quand tu veux, tu peux revenir. Incroyable, ça.
Ça fait 2-2, là.
Question 2-2. Question auditeur. C'est pour vous, Gilles et Mélanie.
Allez, Gilles.
Qui
Allez,
est Gilles. Dernier de Ligue 1?
Allez, Gilles.
Bien.
Il a dit Auxerre, Gilles.
Gilles, Auxerre.
Bien, Gilles. Il a dit Auxerre. Bien, 3, bien, Gilles. Bien.
3-2. Attention, les GG, vous ne pouvez pas répondre quand c'est des auditeurs.
On n'a pas répondu.
3-2 pour l'équipe Duprat Beneteau. Question à élimination. Chacun répond à tour de rôle. Une erreur et vous êtes éliminé. 3-2 pour l'équipe Duprat Beneteau. Citez-moi tous les biathlètes médaillés, les biathlètes français. Hommes et garçons, médaillés à titre individuel aux Jeux Olympiques.
Médaillés d'or ou médaillés?
Médaillés à titre individuel aux Jeux Olympiques. On commence par Marc Madiot.
Ah là, tu peux m'enlever tout de suite.
Biathlète médaillé français aux Jeux Olympiques.
Ouais, Fourcade, oui.
Bah voilà, Martin Fourcade, par exemple. Pascal.
On peut aussi les filles?
Ouais, bien sûr.
Lou Jean Monod.
Lou Jean Monod n'a pas été médaillé aux Jeux Olympiques.
Pourquoi?
Parce que c'est la pas réussi.
Merde.
T'as gagné avec des champions.
Non. Je suis mort là.
T'es mort, ouais. Christophe Cécieux.
Oh non.
Avec Christophe, je suis pas de stylo. Il faut venir équiper, monsieur.
Raphaël Poiré.
Raphaël Poiré, bien. C'est bon. Julien Beneteau.
Vincent Jay.
Vincent Jay, bien sûr.
Bien.
Allez, Madio.
Je suis pas là.
5, 4, 3. De
Allez, jeu.
Éliminé. Il reste Christophe Cessieux et Julien Beneteau. Christophe.
Vincent Defrane.
Vincent Defrane?
Non.
Médaille,
en
médaille
d'or.
Médaille
d'or.
Pas de Vincent Defrane. Éliminé, ouais. Christophe. Julien Beneteau.
Alors là.
Allez. Justine Brezaz.
Justine Brezaz. Justine Brezaz Boucher. C'est bon!
Bon,
bah,
oui.
On regarde cette question,
Vincent Defrane, champion olympique en 2010. Non, je refuse. Je ne joue plus.
Arrête, il y a des gens qui peuvent gagner un jeu.
Non. Il a triché. C'est Max Abola qui triche.
On n'est pas parfait. Comme toi, t'arrives parfois à 9h07 alors que l'émission commence à 9h. On n'est pas parfait, on accepte nos imperfections et tu restes dans le jeu.
Ouais, d'accord.
Donc tu es vivant.
C'est à toi.
Allez.
Là, je
5, 4, 3. 2.
Quentin Fillon-Maillet.
Quentin Fillon-Maillet, ben voilà. Julien Beneteau.
Niogret.
Quoi? C'est qui ça?
Thierry Niogret. Ah oui, mais t'es pas arrivé avant.
Non, c'est pas bon. Victoire de Christophe Cessieux, qui marque donc.
Un
point. Égalité, 3 partants, 2 points, me dit Maxime Abola.
Ouais, c'est n'importe quoi, c'est juste.
Sûrement,
4
Max,
points.
Sûrement.
Ça a toujours été 2 points, les gars. Question auditeur, c'est pour vous, Mélanie et Gilles. Quel joueur du PSG aurait pu être gravement blessé à la cheville hier?
Chevalier.
Chevalier, Gilles. Quatre partout. Attention, balle de match. Question à une seule réponse, les GG. Une seule réponse. Qui a dit à ses supporters, il faut mettre plus d'ambiance?
Pogba.
Marc Madio qui donne la victoire à l'équipe Cessieux. Madio, j'ai envie de donner cette victoire d'ailleurs qu'à Marc Madio parce que l'attitude de Christophe a été lamentable. Et Mélanie,
vous avez essayé de m'éliminer à deux reprises. Tu as voulu m'éliminer.
Bravo Mélanie, tu remportes donc ton séjour pour deux personnes à l'hôtel Talakad de Leader et bravo à toi.
Merci beaucoup.
Les grandes gueules du sport sur RMC avec Talacap, le rendez-vous détente, relaxation et beauté sur l'île de Ré. Talacap, votre programme thalassothérapie au cœur de la nature.
Qu'est-ce qu'elle voulait dire, Mélanie?
Mélanie, t'es encore là?
Et je remercie Pascal d'être venu.
Ah, les Stéphanoises, elle remercie Pascal d'être venu. Tu vois, Pascal, en fait, t'es pas parti comme un voleur, t'as pris un utilitaire pour partir de Saint-Etienne. Mais on te reconnaît quand même.
Avec une fausse moustache.
Merci les grandes gueules du sport. Merci Christophe Cessieux, merci Marc Madio, merci Pascal Dupraz, merci Julien Beneteau. Tiens, Nabil sur WhatsApp me dit merci avec le vestiaire. Vous me donnez des idées de causerie pour mon match cet après-midi. Vous voyez, vous êtes inspirant. Les grandes gueules du sport pour tout le monde. Allez, tout de suite, les paris RMC. Restez avec nous sur RMC.